Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation musicale. On te retrouve après cette émission comme tous les jours. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, nous recevons Lionel Willaert de Bees for Life. Bonjour, comment allez-vous ?
Oui, bonjour, ben, merci beaucoup. Très bien, il fait un petit peu chaud, mais parfait.
Voilà. pour ceux qui sont anglophones, vous aurez compris qu'on va parler un petit peu des abeilles et surtout de leur ennemi. On va parler du frelon asiatique, hein, pas mal, cette bestiole qui nous fait du tort et à elle et à nous indirectement ou directement. Voilà, on va passer une petite heure ensemble pour parler de ça, découvrir l'association. Il y a plein de choses intéressantes, des fois techniques, des fois biologiques, vraiment, et des projets intéressants, vous allez voir ça. On va d'abord faire un petit saut vers le flash national et international, et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec Lionel Willaert de Bees for Life. Alors, après toutes ces bonnes nouvelles, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de réintroduction de produits dont on sait qu'ils sont néfastes, hein?
Ben oui, alors très clairement, on a affaire aux pesticides qui avaient déjà été passés par la loi et qui permettaient enfin de se prémunir de l'usage des pesticides avec des règles bien connues et bien organisées, en tout cas pour la France. Mmh. Et donc là, on est reparti dans un contexte qui est confronté à un sujet quand même qui est de toute façon très complexe. Mmh. D'un côté, on a la biodiversité qu'on veut protéger et c'est évident que c'est... Pour l'horizon à moyen terme, c'est ce qu'il faut absolument faire. Mmh, mmh. Mais néanmoins, par rapport à ça, pour les agriculteurs, les solutions qu'on leur propose sont assez limitées. Et en plus, sur un plan réglementaire ou du commerce international, on ne leur rend pas très service en ouvrant les frontières d'une façon assez large. Donc, d'un côté, coup perdant pour les agriculteurs, coup perdant pour le monde de la biologie et de la biodiversité des apiculteurs, et tout le monde est perdant dans cette affaire d'une façon générale.
Voilà, bon, mais après, voilà, on va essayer d'être plus positif, mais bon, mais c'est vrai que c'est vraiment affligeant de voir ça, parce que, bon, voilà, c'est des gens qui ont des intérêts en théorie communs, mais qui n'arrivent pas à s'entendre quand même. On met dans la balance les besoins des agriculteurs de produire, voilà, et le besoin de protéger ce qui va leur servir à produire aussi. Hein, on les oblige à scier la branche sur laquelle ils sont assis, en quelque sorte.
Absolument.
Voilà. Et sur ce, on va faire une petite trajectoire personnelle de notre invité. Il va nous raconter un petit peu une partie de sa bio et une partie de sa vie et qui va nous expliquer comment il est arrivé à ce micro aujourd'hui.
D'accord. Aujourd'hui, au micro, c'est un retraité qui est très actif. Et en fait, si je pars du début de l'histoire, je dirais que j'ai fait une formation assez éclectique. J'ai fait une formation de brevet de technicien agricole. Ensuite, je suis passé dans des formation commerciale avec un DUT de commercialisation. Et ensuite, je suis passé dans la formation sur un plan communication en faisant l'université de la Sorbonne dans le cadre du CELSA, en faisant une maîtrise de communication.
D'accord.
Voilà, donc ça c'est un parcours assez éclectique et qui a ensuite continué à être un peu éclectique. Bon, je suis d'origine agriculture, mes parents étaient agriculteurs et j'ai assez naturellement trouver de l'intérêt pour ces genres d'activités et je suis devenu trader de céréales à Anvers. C'est un métier que j'ai fait pendant 4 ans.
Une belle ville.
Et donc, oui, absolument. Mmh. Et donc, où on parle encore français dans certains milieux commerciaux. Et à l'origine, le port d'Anvers, dans les années 70-80, était un port où on parlait pas mal français.
Oui, c'était très très riche comme région.
Absolument. Mmh. Et donc, du coup, j'ai fait cette activité de trading de céréales qui est extraordinaire en termes de connaissances de marché, de métier, qui m'a amené à devenir responsable achat dans une organisation qui s'appelle Unisabi, qui était la production d'aliments pour chiens et chats et qui se trouve en France et pour lequel j'ai fait un métier d'acheteur dans tous les domaines de compétences de métier, de marché. Et ensuite, je suis devenu directeur des achats de Danone Produits Frais France, et pour lequel j'ai constitué un réseau européen. C'était l'époque où on cherchait à faire de la synergie entre différentes entités, suivant des structures de management assez nouvelles qui surpassaient ou côtoyaient les organisations hiérarchiques, mais en transversal entre différents pays dans le même métier. Et après cette expérience, je suis passé dans l'automobile. Et je suis passé dans l'automobile chez Valeo, dans la partie distribution. Comme au niveau d'Unisavie, j'avais fait beaucoup de logistique. On était venu me chercher pour mes compétences logistiques et achats et pour s'occuper de cette plateforme dans le monde de distribution de pièces détachées de deuxième monte pour l'automobile de chez Valeo. Et donc ensuite, j'ai fait autre chose encore. Je suis passé dans la partie industrie minière et où j'ai découvert encore. Donc, je suis devenu un vice-président achat mondial. Enfin bon, le titre n'est pas important. L'intérêt, c'est les métiers. Et donc, j'ai découvert de nouveaux secteurs d'activité qui étaient énormément d'énergie, énormément de matériel, énormément de connaissances minières. Et donc, dans tous ces métiers, j'ai voyagé, j'ai fait... on va dire au moins deux ou trois fois le tour du monde en visitant les fournisseurs, les marchés. Et à la sortie de ça, ayant été assez actif, mon frère étant apiculteur et président d'apiculture, on s'est posé des questions autour de ce nouveau nuisible qui apparaissait à cette époque-là, donc il y a une dizaine d'années déjà, et où on a commencé à réfléchir à comment on pouvait peut-être lutter contre. Et c'est comme ça qu'on a commencé cette aventure de Beast for Life.
D'accord. Ben c'est la première fois que je reçois un invité qui a 350 ans, parce que tout ce que vous avez fait, je vois que vraiment vous avez fait beaucoup de choses. En tout cas, il y a une connaissance déjà du domaine, on va dire, agricole, de l'alimentation, etc. Et puis aussi, ça dénote une curiosité, une capacité d'adaptation importante. Et donc, vous avez choisi une nouvelle cause, une nouvelle carrière, on va dire, de la retraite. C'est vraiment celle des abeilles et de lutter contre les frelons.
Oui, alors, le frelon, il est arrivé d'une façon officielle, avec son passeport, à Agen, et supposé être arrivé dans des poteries livrées dans des containers d'origine chinoise.
C'est ce qu'on dit, oui.
Et c'est comme ça qu'il a démarré son vécu en Europe. Et il s'est développé par centaines de kilomètres tous les ans ensuite. Et aujourd'hui, il a un territoire complet européen. Il a conquis l'Europe d'une façon générale.
Il est partout.
Et est maintenant présent. Et peu d'éléments ont été, je dirais, mis au point depuis cette date qui permettent d'avoir des actions qui soient, je dirais, radicales pour l'éliminer. On est maintenant, avec les scientifiques qu'on l'on côtoie régulièrement, on est maintenant dans un contexte où on considère qu'il faudra vivre avec.
Oui, c'est ça. Alors, c'est le cas, en fait, de toutes les espèces invasives. On voit bien qu'à un moment donné, une fois qu'elles ont mis le pied dans la porte, on ne peut jamais s'en débarrasser définitivement. Il faut essayer de juguler avec le temps, mais voilà, il faut cohabiter malgré tout.
Alors, il y a certaines expériences qui ont été faites. Les plus anciennes ont été faites en Espagne, dans les îles, où ils ont réussi à exclure le frelon de ces îles. Mais par contre, ils sont complètement contaminés sur le continent. Et la deuxième expérience de ce type qui a été faite, c'était les îles anglo-normandes avec les Anglais, qui ont cherché à également... faire une lutte intégrale et en organisant les choses dans ce sens-là. Mais malheureusement, la lutte n'arrive pas à faire face à l'agressivité, je dirais, et aux moyens logistiques que l'animal peut utiliser, parce qu'il il se transporte par tous les moyens, les transports, enfin les marchandises voyageant énormément.
Il fait
partie toujours du voyageur clandestin qui arrive.
Bien sûr. Alors, l'association elle-même, donc, elle date de quand à peu près?
Alors, on l'a démarré vers les années 2018-2020.
D'accord.
Et on a, à ce moment-là, commencé un premier projet qui était lié à comment essayer de trouver les nids. Parce que le sujet majeur, encore aujourd'hui, est de savoir comment réduire la pression, la pression du frelon asiatique sur les domaines apicoles, si on parle d'apiculture, mais d'une façon générale sur la biodiversité, en essayant de trouver les nids. Parce que on peut organiser la lutte avec le piégeage en piégeant au printemps insecte par insecte, mais c'est un peu Sisyphe. Il en reste toujours. Et donc, le sujet étant de trouver les nids. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à travailler sur un projet de reconnaissance thermique et visible avec des caméras de drones embarquées et qui avait pour objectif d'essayer de trouver les nids dans la canopée des arbres. Donc, c'est comme ça qu'on a démarré ce projet.
D'accord.
On peut le développer un peu si c'est, on a le temps. Mais
on a une minute, après on aura une pause, mais on pourra continuer après.
Donc, ce projet, donc, il a démarré il y a 6-7 ans à peu près, et pour lequel on a commencé des travaux avec des drones bricolés avec caméras embarquées, des FLIR et autres qu'on a traités. On a fait des études assez sophistiquées sur les comportements de la coque de nid de frelon, dans la mesure où le frelon a construit une coque qui est très résistante. Oui. C'est un des meilleurs ingénieurs.
Ça ressemble à du papier mâché, un peu du carton.
Absolument,
hein.
c'est du papier mâché, c'est des débris de feuillage, d'écorce qui sont rassemblés, laqués avec leur salive exceptionnelle de colle qui permet de créer une structure.
Voilà.
Régulièrement entretenue, parce que vous pouvez peut-être vous poser la question, comment est-ce qu'un nid peut grossir?
Oui.
Et donc, les frelons n'ont de cesse de démonter la structure intérieure et de la mettre à l'extérieur.
D'accord, ouais. Okay.
Et chaque fois, ils collent. Mmh. Ils collent avec leur salive, pour faire simple. Hein,
oui, oui.
Les produits qu'ils ont récupérés. Mmh. Et quand vous regardez, leur structure est magnifique. Mmh. Et leur nid, l'image du nid est magnifique également. C'est une belle architecture.
Ah oui, c'est
et
sûr,
donc, c'est comme ça qu'ils arrivent à le faire grandir. Et donc, ils construisent des piliers à l'intérieur, des couches d'installation, comme pour les abeilles, d'alvéoles dans lesquelles vont être pondus les œufs par la frelonne, et qui permettent ensuite de faire grossir la colonie jusqu'à avoir eu dans un nid 15 000 individus durant une saison.
C'est énorme. Oui, alors on va faire une petite pause, mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit nos ennemis, parce que c'est vrai que c'est toujours fascinant, il y a quelque chose toujours de beau quand on voit l'industrie des insectes, ce qu'ils sont capables de concevoir, de fabriquer. Ça impose des fois le respect, hein, que ce soit les fourmis, les abeilles, les frelons.
Ah oui, absolument.
Voilà, donc il y a vraiment une forme d'ingéniosité qui est indéniable. On va faire une petite pause et on retrouve notre invité après ça. Voilà, de retour avec Lionel Willaert et Bees for Life. Donc, on est en train de parler de cette association. Et puis, vous aviez des projets, on a parlé de drones infrarouges, etc. Il y a une chose qui est importante, c'est vous avez fait un site web. Voilà,
oui.
Qui est vraiment un outil, hein, on va dire, c'est pas juste un titre informatif, c'est vraiment un outil, parce que cette problématique du frelon, c'est que, comme moi ça m'arrive dans le jardin, comme plein de gens, ou de se balader, de temps en temps on en voit, en général on baisse la tête parce qu'on a un peu peur d'être pris pour cible, ce qui est rarement le cas si on les embête pas en fait.
Absolument, le frelon en tant qu'espèce, à un comportement qui est, je dirais, différent du frelon européen, qui, lui, a plutôt un comportement, on va dire, calme, ce qui peut paraître bizarre pour des personnes qui se sont fait piquer, mais qui est plutôt calme par rapport au frelon asiatique. Et dès lors qu'on a par hasard, dans une haie par exemple, avec une cisaille, touché un nid, il faut se préparer à une agression forte, parce qu'il considère qu'il a été attaqué sur son territoire personnel, et tout le monde va sortir. Et c'est en cela qu'il est beaucoup plus dangereux qu'un frelon asiatique, qu'un frelon européen, pardon, ou une abeille, ou un autre hyménoptère du même groupe, et qui ont des comportements beaucoup moins agressifs et collectifs. Donc c'est son action collective qui est importante. Son venin n'est pas beaucoup plus violent qu'un venin d'abeille. Il a, comme les autres types de frelons, un aiguillon qui n'est pas une arbalète avec des picots, et donc
il peut piquer
plusieurs fois.
Ouais,
donc ça, c'est son deuxième caractéristique, qui est donc, avec la quantité de frelons et avec sa capacité à piquer plusieurs fois, qui le rend considéré comme dangereux, et d'ailleurs d'abord invasif par rapport aux autres espèces, puisqu'il n'est pas une espèce native dans notre région, et il détruit beaucoup d'éléments de son environnement.
Alors, comme beaucoup d'espèces invasives, est-ce qu'il est responsable aussi de la diminution des populations des frelons locaux?
Alors, il y a une évidence de lutte naturelle entre les différentes espèces. C'est l'une des espèces qui est la plus résistante et qui a la plus grande capacité d'expansion par son cycle, par son développement et par sa méthode d'installation par rapport aux autres espèces. Donc, par construction de l'espèce, il occupe beaucoup plus le terrain que les autres et donc réduit en proportion, je dirais, les autres espèces. Avec la rareté de l'alimentation qu'il peut y avoir. Les frelons asiatiques trouvent maintenant également à l'entrée des ruches des frelons européens qui viennent aussi attaquer les ruches d'abeilles, alors que c'était moins le cas avant.
Oui. Alors justement, le frelon, ça mange quoi? Parce qu'on voit bien qu'il a besoin de peu de protéines, un peu de viande, hein, parce que si on va attaquer les abeilles, c'est parce qu'il mange aussi de la protéine, mais ça mange aussi d'autres, des fruits. On parlait de fruits en antenne, des prunes notamment.
Oui, absolument. Alors, on a sur notre site, qu'on a voulu assez pédagogique, parce que il y a des sites qui existent sur la partie du frelon asiatique, et nous, on a voulu construire un site qui a un côté pédagogique très important, dans la mesure où, à côté de cet aspect de connaissance, on essaye de vulgariser les études scientifiques qui ont été faites et qui sont également accessibles dans le site ou les liens pour y aller. On y a mis également le cycle de développement de l'insecte.
Oui.
Et donc, on voit qu'en fonction de la période à laquelle on se trouve, il va être intéressé par des produits sucrés ou des produits protéiques.
Oui.
Et donc, en fonction du cycle, il va être à l'automne très protéique, dans la mesure où il va préparer la colonie pour l'hiver et permettre aux rennes qui vont être développées d'aller s'enterrer et se faire des réserves. Mmh. Et quand on est au printemps, on est également sur des alimentations plutôt sucrées. Et
oui,
c'est pour ça que les pièges que l'on suit également dans l'application, que on pourra expliquer rapidement, les pièges à frelons, on le conseille de les installer au printemps et d'arrêter ensuite en pleine saison pour éviter de capter trop d'insectes qui ne soient pas considérés comme nuisibles.
Oui.
Même avec des pièges de très bonne qualité, on n'est jamais complètement 100% sélectif.
Oui.
Et donc, au printemps, les pièges vont avoir un appât de type sucré. Et à l'automne, on aura plutôt des appâts de type protéique, déchets de viande ou autres, poissons ou autres, qui vont être attractifs.
Ah, d'accord, il est plutôt omnivore, en fait.
Ah, il est très omnivore, et en fonction de son besoin de colonie, il va changer ou progresser dans son alimentation.
Ouais.
Et donc, dans l'application, vous allez trouver des choses qui sont donc toute une partie de connaissances et toute une partie de recherche de comment se comporter vis-à-vis de lui. Et ensuite, on a deux projets majeurs qui tournent, qui sont le piégeage des frelons et qui suivent le plan national de lutte qui a été mis en place d'une façon générale en France. Une loi par rapport à ça a été votée en décembre, le 31 décembre, ça se fait rarement, mais enfin c'est le dernier jour de l'année, qui a été votée et qui permet de construire un projet français global, structuré, pour organiser la lutte. Et donc nos outils sont typiquement alignés sur cette partie-là. Et contribue d'ailleurs avec les informations qu'on échange avec le Muséum d'Histoire Naturelle, avec l'INRAE et les autres scientifiques, contribue à construire la connaissance et construire des bases de données pour les chercheurs qui peuvent l'utiliser. Et donc on a deux projets. D'un côté, le suivi de piégeage, qui est un des leitmotifs importants du plan national de lutte pour dire de quoi s'agit-il, où se situe le dégât, comment se comporter, quelle est la densité par département, et c'est ce que le préfet doit faire aujourd'hui vis-à-vis de la loi.
Oui.
Le préfet est en charge d'organiser la lutte dans le département avec les différents organes qui sont actifs, les associations d'apiculture, les professionnels, des gens comme nous qui nous intéressons, également le grand public, qui peuvent apporter leur contribution en signalant des pièges qu'ils ont, et les inscrire, les suivre, les rapporter et permettre de constituer la data qui va permettre ensuite de faire des études et de compréhension et d'une façon très locale.
Oui.
Et à côté de ça, on a installé un outil de signalement des nids de frelons qui permettent, en ayant la continuité de l'information sous le même toit, de construire une connaissance entre où se trouvent les pièges et qu'est-ce qu'ils ramassent, qu'est-ce qu'ils récupèrent comme individu.
Oui.
Et ensuite, où signale-t-on des nids de frelons et comment on va s'en occuper, mais on va peut-être raconter ça ensuite.
Tout à fait, voilà. On va faire une deuxième pause, on va écouter un petit peu de musique et le flash info local, et puis on va détailler un petit peu voilà, tout ce qui se passe sur votre site, parce qu'il y a vraiment plein de portes d'entrée, comme vous disiez aussi, il y a de la connaissance, il y a un aspect participatif, hein, où justement on le fait les signalements, voilà, comme plein de sites internet naturalistes, on peut compter les papillons ou que sais-je, mais là, le résultat est le même, il y a des informations pour les scientifiques, on se bat contre le frelon frelons, mais d'une manière raisonnée. Allez, on fait une petite pause. Et voilà, c'est reparti. Alors, on a parlé un petit peu de ce site. Alors, c'est www.beesforlife.fr, donc BEESFORLIFE. Hein, voilà, je dis ça parce que c'est important, c'est pas juste un site, comment dire, support promotionnel, c'est la colonne vertébrale, la racine de votre action, tout se situe là.
Absolument. Donc vous avez bien fait de redonner le nom parce que Bees for Life a été, adopté par, non pas par nous, mais par notre jeune génération, qui a indiqué que ce serait bien de le faire en anglais parce que ça va être plus pour les jeunes et autres. Et donc voilà, donc on est parti comme ça sur ce nom-là. Et donc, si on raisonne un peu actualité également du frelon asiatique, c'est actuellement que le frelon asiatique passe d'un nid primaire à un nid secondaire. Mmh. Les nids primaires sont déjà sujets à déclaration et signalement parce qu'ils peuvent être gênants ils sont souvent dans des appentis de jardins, des petits abris, en tout cas proches de nourriture et faciles de développement. C'est la frelonne qui, après la sortie de l'hiver, a commencé à construire le nid. C'est une bosseuse comme c'est pas possible.
C'est une reine comme les abeilles.
C'est la frelonne, c'est elle qui construit le premier petit nid qui va avoir 10-20 cm de diamètre, qui va pondre des œufs. Donc pour pondre des œufs, il faut qu'elle ait construit des alvéoles. Mmh. Et pour construire des alvéoles, il faut qu'elle fasse une coque. Mmh. Et donc elle construit tout ça jusqu'à une centaine d'œufs qu'elle pond. Mmh. Et cette centaine de premiers frelons vont faire l'objet de leur première troupe, je dirais, d'installation, qui vont créer un nid secondaire. Et en général, c'est toujours vrai, mais ça varie, dans la canopée des arbres et plutôt en hauteur, à des endroits plutôt sécurisés, tranquilles.
Oui, on les voit l'hiver.
Et que malheureusement, on ne voit ensuite que l'hiver quand les feuilles sont tombées. Oui. Et donc, le site cherche à organiser la lutte contre le frelon asiatique au niveau de ces nids qui sont à découvrir. Et en permettant à chacun, tout le monde peut le faire, déclarer, signaler un nid. C'est simple à faire, je prends mon téléphone portable géolocalisé, comme il l'est d'habitude, je fais mes photos, je charge les photos dans le formulaire qui permet de faire la description, je passe très rapidement. Vous avez l'option de dire « oui, je veux recevoir des offres de destruction automatique par l'application ». L'application Bees for Life ne fait aucune commission sur ce genre de choses. Les désinsectiseurs proposent leurs services et les désinsectiseurs sont qualifiés. Donc le particulier est garanti de trouver des gens dont on a décliné l'identité, le fait d'avoir le certibiocide, le fait d'avoir une assurance, enfin tous les éléments qui font que vous êtes en domaine de confiance pour prendre ces offres. Et donc lorsque vous avez mis votre formulaire en place, vous avez dit « ok, je veux bien recevoir des offres », ces personnes, on va supposer que le nid a été déclaré ce matin, à midi, Bees for Life, l'application, va relever les déclarations qui ont été faites, va les envoyer à deux ou trois des insectiseurs les plus proches, qui ont jusqu'à minuit pour faire une proposition. À minuit, les propositions qui ont été faites, une, deux, trois maximum, pour faciliter le choix, qui ont l'avantage d'être très descriptifs et très pédagogiques, ce qui fait que donc quand je vais recevoir les offres à minuit, si je suis quelqu'un qui en ce moment n'arrive pas à dormir, je peux à minuit 10 regarder si l'une des offres m'intéresse, et je vais y trouver des offres bien de désinsectiseurs qui sont proches ou qui cherchent à être très protecteurs de l'environnement et vont éviter d'utiliser des produits chimiques et vont carrément emballer les nids. Il y en a peu, mais il y en a qui le font.
Ah, oui.
Ou ensuite utiliser des produits chimiques qui sont plutôt protecteurs et qui sont moins agressifs et qui sont plutôt plus vite biodégradables par la luminosité que des produits chimiques de synthèse. Donc voyez, tout ça, vous allez le voir. Et le prix qui va être proposé soit avec simplement le traitement, ou également le décrochage du nid. Et on recommande, bien sûr, lorsque c'est un produit chimique qui a été utilisé, de décrocher le nid 48 heures après le traitement pour permettre aux autres insectes qui n'étaient pas présents de revenir au nid, également d'être éliminés.
D'accord.
Et donc, c'est ce cycle-là qui a été mis en place. L'intérêt de cette démarche, je fais le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez des cartes qui vous permettent de voir visiblement les nids. Si c'est une commune qui a pris l'application, le référent de la commune va voir à la fois les pièges qui sont installés sur sa commune et les signalements de nids qui ont été faits et détruits. Et en accumulant les saisons, 2 années, 3 années, 4 années, il va pouvoir commencer à faire des compréhensions de son territoire et voir que finalement, les frelons s'installent plutôt pas loin du petit ruisseau ou pas loin d'un endroit humide ou pas loin de nourriture ou pas loin d'un rucher d'ailleurs aussi. Et donc, adapter la lutte locale par rapport à l'information qu'ils collectaient. Et vous ajoutez donc ça, par exemple, au niveau de la communauté de communes de Max, qui regroupe 23 communes, qui a accepté de prendre les applications. On a donc décliné, donc ils nous ont aidés à installer ces genres de choses. Ils ont pris un abonnement. Les abonnements nous permettent de continuer à faire nos recherches et à installer des outils de plus en plus performants. Et donc, les 23 communes, aujourd'hui, de la communauté de communes de Max, sont chacune équipées d'une plateforme personnalisée à la commune. Et donc, c'est cabreton.bizforlife.fr ou senios.bizforlife.fr et ainsi de suite. Et donc, chaque référent s'occupe de sa plateforme en très grande proximité et donc peut faire appel donc aux désinsectiseurs qui sont référencés. Les désinsectiseurs sont disponibles sur la plateforme. Vous pouvez aussi les trouver directement si vous allez dans la rubrique désinsectiseurs. Vous pouvez trouver d'une façon assez informative comment ils opèrent et ce qu'ils font. Donc notre souci est de faire en sorte que le métier du désinsectiseur soit également un métier qui soit bien reconnu avec des professionnels sérieux. Et le fait d'avoir cette mini appel d'offres chaque fois qu'un nid est en sollicitation, fait que les désinsectiseurs ont un comportement tout à fait responsable et expliquent également, et avec leur pédagogie, la situation, plutôt que d'appeler au hasard un désinsectiseur que vous allez découvrir pour une seule fois et pour lequel vous n'aurez pas trouvé, je dirais, plus d'identité que son téléphone et son mail.
Bien sûr. Alors moi, je vais vous poser une question que la plupart des auditeurs doivent être en train de se poser, avoir une ordre d'idée, un ordre de grandeur du coût, parce que c'est vrai... Moi, je l'ignore d'ailleurs.
Absolument. Non, mais donc, si vous allez sur le site, les désinsectiseurs qui ont accepté de remplir le formulaire et qui sont donc abonnés d'une façon annuelle et eux payent parce que c'est en même temps une vitrine pour eux et ça nous aide à développer l'application et l'association pour laquelle on n'est fait que de bénévoles, il n'y a pas de rémunération. Vous allez trouver des désinsectiseurs qui indiquent, on leur demande, quand ils remplissent leur contribution et qu'ils veulent devenir des insectiseurs Bees for Life, on leur demande entre autres de dire, au fait, toi, avec tes méthodes et tes moyens, quel serait le prix de la destruction d'un nid qui est à peu près 15 mètres de haut, 10-15 mètres de haut, et avec une facilité d'accès normale. Donc ça, c'est un premier prix de référence. Et donc, les prix qui sont pratiqués aujourd'hui pour un nid de ce type-là vont aller de 70 à 120 euros. Parce qu'il faut intégrer aujourd'hui le fait que la distance joue dans la mesure où un nid normalement traité, c'est un nid qu'on va donc identifier, qu'on va traiter, si c'est un produit chimique, va supposer devenir deux fois, d'une façon à 48 heures plus tard. Et donc, vous allez voir cette description-là dans la proposition de prix qui est faite par le désinsectiseur et la capacité à expliquer son prix. Ce qui fait que vous pouvez voir et comparer peut-être quelqu'un qui va vous dire, ben moi, je n'interviens que par le fait d'ensacher les nids et à pas plus de 10 mètres de haut parce que je le fais à l'échelle et j'ensache et je détruis par écrasement le nid, donc sans produits chimiques. Et ça va sans doute coûter peut-être un petit peu plus cher, mais pas forcément. Par rapport à quelqu'un qui va utiliser un produit chimique de synthèse, qui est le plus efficace, qui est aussi le moins cher, et qui va donc vous permettre d'avoir une offre de 2 ou 3 façons d'intervenir, et qui vont vous permettre donner cours à votre vision, vous, de votre environnement et de votre façon de lutter contre le frelon.
Alors la question aussi, c'est la responsabilité, c'est-à-dire si je découvre un nid de frelon, qu'est-ce qui incombe? Qu'est-ce qui m'incombe à moi de faire ou pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de... Les collectivités, certes, elles vont agir sur les lignes de frelons, mais moi, en tant que particulier, si j'ai un frelon chez mon voisin, comment je fais? Je m'organise avec le voisin, on partage, c'est à lui de le faire.
D'accord, alors, donc on a trois grands cas de figure. j'ai le nid de frelon qui est sur mon territoire, dans mon jardin. Dans ce cas-là, si c'est une plateforme de commune, vous allez déclarer votre nid dans la plateforme de la commune et vous allez suivre le processus que j'ai décrit juste avant, qui est donc de recevoir 3 offres. La commune va aider ou pas aider, ça c'est une politique de la commune, d'aider à la destruction ou pas. Nous n'intervenons pas là-dedans, mais dès qu'une commune aide, on le fait savoir. Et une commune comme Saint-Martin-de-Seignan, par exemple, aide à 25% de la destruction. Une commune comme Osgore aide à 25% de la destruction. Une commune comme Cap-Breton est en régie, elle détruit elle-même les nids. Donc la situation est différente c'est pour ça qu'on a des plateformes par commune.
Oui, bien sûr.
Et donc, premier cas de figure, c'est chez moi. Le deuxième cas de figure, c'est chez mon voisin. La seule personne ou organisme qui peut agir officiellement est la commune qui peut demander au voisin de s'occuper de son nid.
Oui.
Parce qu'elle va considérer qu'il est dangereux.
Oui, bien sûr.
Aucune commune n'intervient chez un voisin si ce n'est pas un nid qui est dangereux. Si le particulier ne veut pas détruire le nid et qu'elle considère que c'est dangereux parce qu'il est à côté de la maternité, par exemple, de la maternité ou de l'école, de la crèche, de ce qu'on veut, ils vont eux-mêmes intervenir et facturer la destruction à la personne qui n'a pas voulu s'en occuper parce que c'est un problème de sécurité.
Oui, voilà, c'est ça.
Troisième situation, c'est un nid qui est sur le territoire de la commune. Deux cas de figure. Soit une commune est très engagée dans la politique de biodiversité, de protection de l'environnement et des abeilles, et en ces cas-là, elle va systématiquement détruire les nids. Soit elle le fait elle-même, le cas de Cap-Breton, ou elle le fait faire avec l'un des désinsectiseurs de liste qui ont été référencés, mais elle peut aussi avoir ces désinsectiseurs personnels qui sont référencés sur la plateforme.
Très bien.
Et donc, on a, je dirais, traité à peu près toutes les situations avec cette façon de faire.
Ouais. Merci beaucoup. Alors, on va faire une dernière pause et on va attaquer rapidement la dernière partie de cette émission. Et nous voilà de retour, c'était à la campagne de Benabar, pour avoir un côté un petit peu bucolique. Il n'y a pas que des choses qui piquent, il y a des choses qui sont sympas aussi dans la nature quand même. On va continuer notre émission pour cette dernière partie. On va pas manquer d'informations à donner. Alors il y a aussi, on va parler des projets, de l'actualité, parce que ça, il y en a.
Oui, alors vous avez compris que les plateformes de signalement sont une des clés de fonctionnement de l'application et de l'association. Et donc on est actuellement, par rapport au plan national de lutte qui est en plein déploiement, je dirais, dans les différents départements et dans les différentes régions, on est en train de monter des projets avec les groupements de défense sanitaire de Nouvelle-Aquitaine et de Occitanie, et qui ont pour objectif de faire en sorte que ce qui s'appelle les GDS par département, les groupements de défense sanitaire, qui sont des aménations associatives qui s'occupent de la santé des abeilles, entre autres, et qui donc ont pour charge de connaître le territoire en se rapportant à la contamination par le frelon asiatique. Et donc on est embarqué dans leurs projets qu'ils sont en train de soumettre à chacune de leurs régions, et on va savoir d'ici septembre si oui ou non on va pouvoir déployer, donc par exemple pour la Nouvelle-Aquitaine, sur la douzaine de communes, les douzaines de départements, les applications de ce type-là, et de la même façon pour l'Occitanie.
D'accord.
Ça, c'est un des gros projets. On vient de développer un projet avec la jardinerie Lafitte, qui est donc un voisin, et qui a comme objectif de dire, finalement, toutes les communes ne sont pas en état de pouvoir contribuer à la destruction des nids, mais les jardineries qui ont également une activité, soit d'apiculture, également d'environnement, biodiversité, je dirais, vente de nichoirs, graines pour oiseaux et autres, ont un intérêt également à pouvoir aider la biodiversité en facilitant la démarche sur le signalement des nids et leur destruction. Et donc les dirigeants de Jardinerie Lafitte ont accepté que l'on travaille ensemble, et on a créé une plateforme dédiée pour Jardinerie Lafitte qui s'appelle donc lafitte.bizforlife.fr, et sur laquelle vous pouvez aller. Et si vous êtes un client de Jardinerie Lafitte et que vous avez un signalement de nid que vous allez faire, vous allez pouvoir, et que vous le faites détruire, la Jardinerie Lafitte s'est engagée à donner un bon d'achat à dépenser dans leur magasin, qui est un peu l'équivalent de l'aide qu'une commune peut donner lorsque une commune soutient la destruction des nids. Voilà le genre de projet sur lequel on travaille.
D'accord.
Et puis on a un autre projet qui est actuellement en cours, qui est donc le fait qu'à partir de septembre-octobre, donc on va dire le 1er octobre, on va avoir la diffusion du fait qu'on va rechercher les nids d'une façon officielle, avec des opérateurs de drones officiels ou des amateurs de drones qui auront des drones à moins de 250 grammes, qui vont être par exemple des Mini 5 Pro de chez DJI et qui vont être en capacité de produire des images et couvrir une surface donnée de canopée des arbres. Ils vont nous envoyer les images. Nous allons les traiter dans l'application qu'on a développée avec l'Université de Bordeaux, le Labri, et qui vont permettre d'identifier dans des milliers d'images les taux de confiance identifiés de nids, de présence de nids. Et dès qu'ils seront donc géolocalisés, envoyer quelqu'un pour valider cette opération et pouvoir le détruire.
Voilà, c'est la guerre, hein.
Ah, c'est le combat tout niveau pour essayer de maximiser l'opportunité de protéger l'environnement.
Voilà. Il faut profiter de l'occasion pour dire aux auditeurs, aux auditrices, on vous l'a bien expliqué, que c'est dangereux et qu'il vaut bien mieux s'adresser à un professionnel qu'essayer de s'attaquer à un nid tout seul. Vous n'avez qu'à voir des vidéos sur Internet, vous allez voir les gars qui sont en combinaison de cosmonautes quasiment. Et quand on entend le bruit, les impacts et le nombre d'individus qui attaquent, voilà, si on est tout seul en short dans son jardin, ben, il vaut mieux s'échapper plutôt que sortir sa raquette électrique ridicule pour les moustiques.
Absolument. Il faut redire l'importance de la sécurité qu'il faut développer. Parce que la tenue qui est utilisée, j'en ai une également, bien sûr. Nous, on ne l'utilise pas pour faire des destructions, mais pour nos travaux scientifiques. La tenue est une toile épaisse. Ce n'est pas un petit voile de protection comme pour aller aux abeilles. C'est une voile épaisse qui protège. Et donc, avoir pour la sécurité, bien sûr, une bombe anti-frelon chez soi est toujours de bon aloi, mais pas pour aller organiser la destruction. Laisser ça aux professionnels.
Oui, c'est vrai. Il vaut mieux, parce que voilà, il y a quand même des accidents. Et puis, ça peut être très douloureux. Je sais pas. Vous vous êtes déjà fait piquer, vous, personnellement ?
Pas pour les frelons, par les abeilles, oui.
Les abeilles, oui, voilà. Moi aussi. Mais les frelons, jamais. Mais je connais des gens qui l'ont fait. C'était assez cuisant, d'après ce que j'ai compris.
Absolument.
Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de ça. Donc, on va être vigilants. Alors, sur le site internet, bien sûr, il y aura l'adresse avec le podcast. Les gens verront aussi la saisonnalité, hein, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où ben, l'hiver, quand on les voit là-haut, ben, c'est, le mal est fait, c'est trop tard, hein, il n'y a plus rien à faire puisque c'est du one-shot apparemment.
Mais signalez-les quand même parce que la frelonne, les 400 ou 500 frelonnes qui sont sorties ne sont pas loin de ce nid et vont sortir au printemps.
Voilà, donc surveillez les arrivages de frelons, je crois qu'ils utilisent aussi les phéromones hein, comme les abeilles. Hein. Et quand elles sont passées à l'endroit, elles ont tendance à attirer les autres. Hein.
Absolument.
Voilà, ça on s'en rend vite compte. Eh bien, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça. Voilà, on va être très prudent et penser aux abeilles parce que elles se font détruire par les frelons et on en a besoin pour survivre. Hein. Sans abeilles, on perd très rapidement 80% de la biodiversité et on en a besoin. Voilà.
Ben, merci de nous avoir reçus et merci également aux sponsors qui nous aident dans nos luttes.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci.